l'histoire.
En 1939, un paquebot plein de réfugiés juifs quitte le port de Hambourg en Allemagne avec l'espoir de trouver un refuge ailleurs. C'est la triste histoire de ce navire que raconte le dernier ouvrage de Bernard Benyamin, l'Odyssée de la peur. Franck Ferrand reçoit son auteur cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y a quelques années, Bernard Benyamin, et oui, déjà quelques années, il était venu nous présenter son ouvrage « Le Code d'Esther », passionnante enquête à partir des derniers mots d'un criminel de guerre, le nazi Julius Streicher. Eh bien aujourd'hui, c'est l'histoire incroyable et tragique des réfugiés du Saint-Louis qu'il nous raconte. Ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire pourraient bien être effarés.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Luc sur l'origine de l'expression « le poteau rose ».
Pour le moment, nous allons nous retrouver en 1939 aux côtés de ces pauvres gens partout repoussés.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Au printemps 1939, le monde n'a pas encore basculé dans la guerre mondiale. Ce n'est plus qu'une question de mois, vous me direz, de semaines. Le sort réservé aux Juifs par le régime hitlérien, en revanche, n'est plus un secret pour personne. C'est dans ce contexte terrible que plus de 900 Juifs vont s'embarquer à bord d'un paquebot du Saint-Louis. C'est leur dernier espoir de fuir l'antisémitisme du Reich et la perspective d'une déportation. Ce voyage du dernier espoir, en vérité, va se muer en une tragique odyssée. Revenons donc à ce samedi 13 mai 1939. En fin d'après-midi, il fait beau, il fait même chaud, sur le quai du port de Hambourg, 899 passagers, dont 400 femmes et enfants, viennent de prendre possession de leur cabine à bord d'un paquebot transatlantique, un paquebot magnifique, le Saint-Louis. Certains montent sur le pont, vous savez comment on fait, ce sont les adieux, le départ est imminent. Bernard Benyamin, dans l'Odyssée de la peur, nous le raconte. Les hommes, dit-il, ont le visage grave. Les femmes ont du mal à réprimer quelques larmes. Et les enfants pensent déjà aux parties de cache-cache que le bateau va leur offrir. Et c'est vrai que c'est une merveille, ces grands navires. Lorsqu'on est enfant, c'est comme une sorte de grand jouet. C'est Blaise Cendrars qui disait cela. La plupart des passagers sont donc des Juifs. Une grande partie sont Allemands, d'autres viennent d'Autriche, de Pologne. Il y en a aussi qui viennent d'Europe de l'Est. Il y a une minorité qui est officiellement apatride. Parmi les passagers se trouvent alors des avocats, des commerçants, des médecins, il y a des professeurs d'université. Certains ont été déportés et libérés, d'autres sont déjà placés sous surveillance. Le Saint-Louis est un très beau navire, hein. C'est un des fleurons de la ligne maritime transatlantique allemande, la Hapag, qui relie Hambourg à l'Amérique. C'est un navire de 175 mètres dont la décoration intérieure, nous dit Bernard Benyamin, glorifie le style art déco avec ses immenses escaliers, son vaste fumoir, ses vérandas, sa salle de restaurant qui accueille en première classe plus d'une centaine de couverts, ainsi qu'un orchestre au grand complet afin d'agrémenter les repas. Pour nous donner une idée plus familière à nous autres Français, ça fait penser un peu, en plus modeste, mais ça fait penser un peu à notre grand Normandie. C'est un bateau fait pour la croisière, avec ses salles de cinéma, sa piscine, ses boutiques, où rien n'a été oublié pour satisfaire les passagers. Le capitaine du paquebot s'appelle Gustav Schröder, il a une cinquantaine d'années. C'est un homme qui ne ressemble pas tellement à l'image qu'on peut se faire d'un capitaine au long cours. Hein. Il est petit, il est frêle, il n'en a pas moins sous ses ordres 231 membres d'équipage. À 20h, alors que le soleil décline et qu'il se met à faire un peu moins chaud, le Saint-Louis quitte le port de Hambourg, accompagné par les quelques notes d'une fanfare, comme c'est souvent le cas, une vieille mélodie qu'on fredonne lorsqu'un militaire rejoint sa caserne ou qu'un enfant est séparé de ses parents, comme le signe d'un triste présage. Un certain soulagement, à ce moment, gagne la plupart des passagers. Il faut vous dire qu'ils l'attendent, ce départ, depuis des mois maintenant, depuis la nuit de cristal très précisément. Vous savez que dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, plus de 200 synagogues ont été brûlées, attaquées. 7500 commerces juifs ont été saccagés. Une centaine de personnes ont été assassinées. Et des centaines d'autres se sont donné la mort. Près de 30 000 vont être, dans la suite de cette nuit de cristal qui est le signal de la persécution pour les juifs d'Allemagne, plus d'une trentaine de milliers ont été déportés déjà dans des camps de concentration. Certains passagers du Saint-Louis ont échappé miraculeusement à la nuit de cristal. C'est notamment le cas de Madame Fischer et de ses deux enfants, Ruth et Hans. Lors de la nuit de cristal, la famille était en quarantaine parce que Ruth avait la rougeole. Ça a été un traumatisme pour eux, un moment terrible. Elle a fait prendre conscience, cette nuit de cristal a fait prendre conscience à de nombreux juifs de l'obligation, de la nécessité de fuir ce pays, de fuir le Reich nazi, malgré les difficultés administrative posée par, évidemment par les Allemands. Alors, lorsque le consulat de Cuba à Hambourg a mis en vente des permis de débarquer assortis d'un billet pour le Saint-Louis, certains se sont dit que c'était la solution. Et ils ont été nombreux, en vérité, à s'inscrire. Certains se sont ruinés pour financer ce voyage parce que c'est un voyage très coûteux. La plupart des passagers n'ont qu'un objectif au-delà de Cuba, c'est rejoindre les États-Unis. Mais il va d'abord falloir faire escale à Cuba et attendre que les quotas américains permettent d'entrer aux États-Unis. Vous savez que le système d'immigration aux États-Unis est extrêmement rodé, huilé. Dans la nuit du 13 mai, une cloche retentit à bord du Saint-Louis. Elle annonce le premier service du dîner. Les passagers descendent donc au restaurant. Le personnel est très très smart hein, sur ce grand navire. En passant dans la salle de bal de première classe, les passagers remarquent même que le portrait de Hitler a été décroché. C'est un signe d'élégance envers ces passagers juifs. Et une partie de l'endroit a été transformée en synagogue. Autre bonne surprise, le repas. Car on mange bien à bord du Saint-Louis, caviar, sole, tourneau de Rossini, dinde rôti, asperges, épinards, etc. Des pêches de Californie, une glace à la framboise, des fromages de Hollande, enfin, etc. Nourriture abondante, bien entendu. Deux jours plus tard, le grand paquebot allemand fait son entrée en rade de Cherbourg. 38 personnes montent à ce moment-là à bord du navire et désormais, on a donc à bord 937 passagers. Des passagers qui commencent à se décontracter. Vous savez, le départ était le moment angoissant et maintenant on est à bord, on est en route vers la liberté sur ce paquebot très luxueux. Alors les piscines commencent à s'animer et les ponts promenades, même si certains ont le mal de mer, évidemment, comme toujours sur ce genre de navire, il n'empêche. Le confort, le luxe sont là, ils sont rassurants. Ils sont rassurants, mais ce n'est qu'un leurre, et bientôt tout cela va se révéler dérisoire.
Un extrait des Voyages tziganes de Sarrazad à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Dans un instant, Franck Ferrand remonte sur le Saint-Louis, ce paquebot allemand à bord duquel des centaines de juifs allemands ont quitté l'Allemagne nazie. C'était au printemps 1939.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au printemps 1939, plus de 900 juifs allemands quittent l'Allemagne à bord du Saint-Louis, ce paquebot en direction de la Havane. Un voyage qui avait bien commencé, Franck.
Oui, sauf que dans la soirée du 23 mai 1939, on sent quelque chose de malsains à bord. Ça fait 10 jours que le Saint-Louis est parti d'Hambourg et certains passagers ont remarqué que le navire a ralenti. Et à 23h, les machines se sont totalement arrêtées. La raison n'a pas été révélée à tout le monde. En vérité, on vient d'inhumer, si l'on peut dire, un homme. On a abandonné, en tout cas, à la mer, le corps du professeur Moritz Weiler, qui était malade du cœur, et qui n'avait pas pu bouger de sa couchette depuis le départ de Hambourg. Et finalement, il est mort. Moins d'une demi-heure après ses obsèques, les passagers sursautent, des sirènes d'alarme sonnent à 3 reprises. Un homme à la mer. Alors, les moteurs sont de nouveau mis en panne. On se met même à faire machine arrière. Des passagers se précipitent sur le pont. Les gens sont en pyjama, évidemment. Un membre d'équipage, un aide-cuisinier dépressif, vient de se jeter à l'eau. On ne le retrouvera pas. Vous voyez, c'est comme si la mort s'était mise à rôder sur le Saint-Louis. Le samedi 27 mai, à 4h du matin, après 14 jours de traversée, le paquebot entre enfin dans la rade de La Havane. Donc on est en vue, bien entendu, des terres, en vue de Cuba. Sur le pont, nombreux sont ceux qui ont sacrifié quelques heures de sommeil pour voir cette arrivée, pour vivre, pour ne pas manquer ce moment de passage à la liberté, si vous voulez. Il fait déjà très chaud, même si on est aux petites heures du matin. Les passagers aperçoivent les quais, les avenues éclairées, il y a là les palmiers, les cocotiers de Cuba. On commence à reprendre espoir, à se dire que c'est une nouvelle vie qui va commencer. Dans sa cabine, le capitaine Schröder est moins rassuré. Il sait que des espions allemands ont embarqué sur le Saint-Louis, chargés de récupérer à Cuba un certain nombre d'informations concernant l'armée américaine. Et évidemment, on est dans une période de telle tension. Encore une fois, on est en mai 1939. On est à deux doigts du basculement dans la guerre. Et inutile de vous dire que les services d'espionnage et de contre-espionnage sont partout sur les dents. Depuis le départ de Hambourg, les télégrammes de la compagnie laissent entendre que les passagers ne pourront pas débarquer. Le capitaine a gardé ça pour lui pour le moment. Il l'a simplement dit à un comité de 6 passagers chargés de faire la liaison avec les voyageurs. Déjà les valises ont été sorties des cabines, raconte Bernard Benjamin, prêtes à être transportées à terre. Les 8 ponts du Saint-Louis sont à présent envahis de centaines d'hommes et de femmes qui se congratulent, qui chantent et dansent de joie. C'est la fin du voyage et du cauchemar, l'espoir d'un avenir meilleur avec une garantie en or, tout un océan protecteur entre l'Amérique et l'Allemagne. Certains pleurent, d'autres les consolent. Toute la tension embarquée à Hambourg disparaît doucement dans les eaux caribéennes. Les enfants continuent à jouer, tournant autour des grandes personnes à grand renfort de cris et de rires, indifférents à l'émotion de leurs parents. Eh oui, sauf que le Saint-Louis ne va pas aller plus loin. Il s'immobilise en plein milieu de la rade de La Havane, moteur à l'arrêt. Alors que se passe-t-il ? Les passagers se posent des questions. Les visas sont en règle pourtant. Les permis de débarquer ont été tamponnés. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Personne ne comprend. 2 bateaux à moteur s'approchent. Dans l'un d'eux se trouvent des douaniers et dans l'autre des médecins. L'un des passagers, Eric Dublon, va noter « Très vite, les douaniers sont montés à bord. On nous a annoncé que le débarquement était reporté, que nos documents n'étaient pas en règle. Le nom de Tris Cornia a circulé. Renseignement pris, il s'agirait d'un camp spécialement conçu pour accueillir momentanément les réfugiés avant de les répartir. Dans tous les cas, c'est confirmé, nous ne pouvons pas débarquer immédiatement. Certains disent que c'est à cause de la Pentecôte, que nous sommes samedi, que c'est férié, alors demain peut-être. » Les médecins sont chargés d'examiner les passagers du bateau, pour vérifier bien entendu que personne n'a de maladie grave. L'examen est rapide, pas plus de 45 secondes par personne et aucune mise en quarantaine n'est décrétée. La nuit qui suit, les passagers sont très tendus. Vous imaginez l'angoisse qui est en train de s'instiller à bord, bien entendu. Il fait très chaud, plus de 25 degrés. Il y en a beaucoup qui sont maintenant sur les ponts hein, pour essayer de prendre l'air. La plupart sont très impatients et surtout très inquiets. Au matin du dimanche 28 mai, il fait déjà plus de 25 degrés. Les passagers du Saint-Louis quittent précipitamment la salle du petit déjeuner pour aller sur le pont. Une armada de petites barques, raconte Bernard Benyamin, enserre le paquebot de tous côtés, guettant le moindre signe de vie sur le pont supérieur. Le principal problème de cette flottille est de stabiliser les embarcations qui s'entrechoquent au rythme des courants parvenant à pénétrer dans la rade de la Havane. On y voit de tout, des vendeurs d'ananas, des noix de coco, de cigares ou de sorbets qui s'époumonnent à vanter les vertus de leurs marchandises. Et puis il y a d'autres barques qui arrivent. Les maris, les oncles, les parents qui se trouvaient à Cuba et qui viennent au-devant de leur famille, au-devant du paquebot. Mais 30 mètres les séparent des passagers du Saint-Louis. À 10 heures, des responsables du service d'immigration accompagnés d'une dizaine de policiers arrivent à bord d'une vedette. Ils accostent donc, hein, ils s'approchent du paquebot, ils accostent. Ils vont monter à bord, ils s'installent dans la salle de restaurant. Les passagers affluent, les queues se forment. Passeport en main, bien entendu, on le veut, ce permis de débarquer. Mais très vite, les sourires des plus optimistes vont s'effacer. On leur explique en effet qu'aucun passager n'a le sauf-conduit délivré par le secrétariat d'État au travail. En clair, le débarquement est impossible. Vous imaginez la déception. Tout le monde est littéralement abasourdi. Mais quel est ce document dont on ne leur avait pas parlé? Quel est ce document que réclament maintenant les fonctionnaires cubains?
Les passagers du Saint-Louis vont-ils réussir à débarquer à la Havane? La suite de ce récit, c'est dans un instant sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le paquebot, le Saint-Louis, est à la Havane. Sauf que les passagers ne peuvent pas débarquer et personne n'y comprend rien, Franck Ferrand.
Oui, et au-delà de la déception, c'est maintenant la colère qui règne dans la salle de restaurant du Saint-Louis. Nous sommes au matin du dimanche 28 mai 1939. Le paquebot ne peut donc pas débarquer ses passagers, en tout cas s'ils n'ont pas le sauf-conduit indispensable. Ce que ne pouvaient pas savoir tous ces passagers, c'est que le président cubain, Federico Laredo Brou, a abrogé quelques jours plus tôt un décret autorisant les réfugiés à venir à Cuba en tant que touristes. Et cette abrogation avait deux objectifs. D'une part, il s'agit d'endiguer le flot des réfugiés. Ça nous rappelle quelque chose. Ces réfugiés qui arrivaient de plus en plus nombreux vers Cuba en provenance de l'Europe de l'Est essentiellement. Et puis d'autre part, le président cubain avait l'intention de stopper le trafic mis en place par le directeur de l'immigration Benitez qui vendait des permis de débarquer illégaux. Ça, c'est plutôt louable comme volonté. Mais enfin, il n'empêche que le résultat est là. Brou a décidé que pour débarquer en territoire cubain, il faudrait désormais à chaque passager un permis d'immigration délivré par le secrétariat d'État au travail, permis qui coûte une fortune, $500 de l'époque. Il faut vous dire que les passagers du Saint-Louis n'ont plus un sou vaillant, puisqu'ils ont été sommés de tout laisser en quittant l'Allemagne. Ils n'ont pas pu emporter leurs biens. Ce que ne devinent pas non plus ces pauvres passagers, c'est la virulente campagne menée à terre, à Cuba, par une partie de la presse contre les Juifs, contre le débarquement de ce paquebot. Il y a à la manœuvre le parti nazi cubain qui n'en veut pas de ces réfugiés. Cuba connaît une crise économique, les Juifs sont comme bien souvent les boucs émissaires de cette affaire et vous comprenez que le débarquement maintenant est très compromis. L'avenir des passagers du Saint-Louis s'assombrit. Une trentaine seulement de personnes vont être, dès le dimanche 28 mai, vont être autorisées à quitter le paquebot. Il s'agit de citoyens cubains ou de réfugiés espagnols détenteurs d'un visa d'immigration légale. Quant aux autres passagers, imaginez leur frustration, imaginez leur colère. Certains se rapprochent de l'échelle de coupé, ils réclament la possibilité de descendre à terre. Ils parlent en allemand, mais les policiers cubains, eux, ne comprennent que l'espagnol. Et on les voit sortir leurs fusils. Alors devant la menace, le calme revient. À la nuit tombée, la salle du restaurant est désertée. Les passagers, évidemment, n'ont plus du tout d'appétit. Tout le monde est démoralisé. Dans la salle de bal, l'orchestre va jouer une valse de Strauss, mais personne n'a le cœur à danser, inutile de vous le dire. Le lundi 29, le soleil est toujours là, hein, brûlant. Les passagers restent à la table du restaurant tandis que les ventilateurs brassent cet air chaud. À l'extérieur, étant donné les événements de la veille, les effectifs de police ont été singulièrement renforcés. Et maintenant, le navire est littéralement cerné par la police. En début d'après-midi, un membre du comité américain de secours juif, il s'appelle Milton Goldsmith, le comité en question c'est le Joint, Goldsmith arrive sur le bateau, les membres du comité des passagers et le capitaine Schroeder ont organisé une réunion avec cet homme de la dernière chance d'une certaine manière. Milton Goldsmith ne cache pas la gravité de la situation. Le Saint-Louis ne pourra pas débarquer ses passagers pour le moment. Il faut attendre des négociations entre le comité de secours juif et les autorités cubaines. Milton Goldsmith va proposer deux solutions. D'abord, réunir 300 noms d'amis et de parents aux États-Unis pour leur demander de l'aide. Et en parallèle, le représentant du Joint propose au comité des passagers d'adresser un télégramme à l'épouse du président cubain pour qu'elle puisse faire fléchir la position du gouvernement, position inflexible de son mari notamment, en faveur des réfugiés. Pendant ce temps, alors que les policiers occupent le paquebot, l'ancien procureur de Hambourg, il s'appelle Max Löwe, va tenter de se suicider. Il s'ouvre les veines avec une lame de rasoir, il se jette par-dessus bord. Alors on le repêche, il est emmené à l'hôpital sans que son épouse puisse l'accompagner. Bien entendu, elle n'a pas de permis de débarquer. En fin de journée, l'espoir renaît. Il se murmure que les négociations ont commencé entre les autorités cubaines et le fameux comité de liaison là, et qu'un autre officiel, qui lui est arrivé par avion de Washington, va peut-être débloquer la situation. Le lendemain, alors que les vedettes cubaines patrouillent sans cesse autour du bateau, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de changement, rien n'a bougé. Les passagers sont maintenant désespérés, ils sont excédés dans la soirée alors que l'air lourd annonce des orages. Le capitaine Schroeder est alerté par un officier, l'un de ses stewards n'a pas pu entrer dans la cabine d'un passager. Alors on enfonce la porte à l'aide d'un pied de biche et cette fois c'est un médecin, Fritz Hermann, qui est retrouvé gisant sur son lit. Lui aussi a tenté de se suicider. Une seringue et des ampoules vides sont retrouvées près de lui. Il est emmené à l'infirmerie. C'est quand même le troisième suicide depuis le départ de Hambourg. Au matin du 1er juin, le 1er juin c'est le mercredi, on commence à s'organiser. Et dans la soirée à 18h, le comité des passagers est réuni par le capitaine Schroeder. Le Saint-Louis vient de se voir intimer l'ordre de quitter la Havane. L'entrevue entre deux représentants américains du comité de secours juif et le président cubain, cette entrevue à laquelle on accordait tant d'espoir, n'a rien donné. Il ne faut surtout pas que les passagers déjà à cran apprennent la nouvelle. Face à cette impasse, Schroeder tente d'obtenir un entretien avec le président cubain. Ce sera alors là vraiment l'entretien de la dernière chance. Bonjour Bernard Benyamin.
Bonjour Franck.
Avec vous, nous allons poursuivre cette aventure car malheureusement, si je puis dire, on est loin d'être au bout.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui sur Europe 1, jusqu'à 15h, nous vous parlons de ce voyage avec le paquebot Saint-Louis et ses centaines de réfugiés juifs. C'est aussi le sujet du dernier livre de Bernard Benyamin, L'Odyssée de la peur. Bernard Benyamin, qui est votre invité, Franck Ferrand, journaliste, producteur, animateur télé et créateur d'Envoyé spécial.
Alors, votre héros, si je puis dire, Bernard Benyamin, c'est Gustav Schroeder, justement. C'est le capitaine de ce navire qui va essayer maintenant. Il est dans le bureau du président Brou, dans le bureau du président cubain, et il essaie d'obtenir un infléchissement des décisions extrêmement rigide du gouvernement cubain envers l'immigration et notamment envers ses réfugiés. Est-ce qu'il va y arriver ?
Non, il ne va pas y arriver. On pense aujourd'hui, avec le recul, j'ai rencontré un certain nombre d'historiens cubains, que depuis le départ, le président Brou ne voulait pas de ce bateau, pour plein de raisons. Il n'en voulait pas et il va rester inflexible. Et donc il va dire au capitaine Schroeder, partez, quitter les eaux territoriales cubaines. Et à ce moment-là, je veux bien me réunir avec vous une dernière fois et décider de ce que l'on fait sur ce cas-là. Et c'est exactement ce qui va se passer.
C'est-à-dire que le 2 juin, le navire fait machine arrière, le voilà qui repart, qui quitte Cuba sans avoir pu débarquer. C'est terrible quand même pour les...
Et les passagers qui tournent en rond sur le bateau, avec un comité contre le suicide qui se met en place. Vous avez parlé tout à l'heure des différents suicides qui ont déjà eu lieu. On a peur qu'il y ait une vague de suicides. Et donc, il y a des gens qui, le soir, guettent sur les ponts. Les gens prenaient pas qu'ils se jettent à l'eau. Et ils vont commencer à tourner, à faire des ronds dans l'eau, au large de la Floride.
C'est ça, on est tout près des côtes de la Floride. D'ailleurs, vous avez rencontré un témoin des événements. Il avait 12 ou 13 ans à l'époque des faits. Il s'appelle Herbert Carliner.
Son histoire est formidable. Herbert a 12 ans au moment des faits. C'est un petit garçon qui est très mature, qui est, bien qu'il soit le cadet, il prend en charge toute la fratrie et c'est lui qui décide de tout. Ses parents ont une entière confiance en lui. Et le petit Herbert passe de longues heures à rêver devant le hublot à partir desquels il voit la côte de Floride, c'est-à-dire les plages de sable blanc, les belles maisons. Il voit les cocotiers, il voit les belles américaines. Et donc, il se dit à ce moment-là, il a 12 ans, il se dit, parce qu'il sait que cette histoire sent mauvais, évidemment, il se dit, si je m'en sors, je voudrais un jour habiter là. Et je l'ai retrouvé précisément là. C'est-à-dire en Floride. Et mieux que ça, il y a un truc qui est absolument formidable, et on parlait tout à l'heure du code Esther, qui m'est cher à propos des hasards et des coïncidences. Je suis chez lui, chez Herbert Carliner, je l'interview sur tous ses souvenirs, ce qu'il a vécu, et il me dit à ce moment-là, venez, vous n'avez pas tout vu, je vais vous emmener dans la cuisine. Et il se lève, il prend son déambulateur, parce qu'il a près de 90 ans, et il m'emmène dans la cuisine, et dans la cuisine, je découvre qu'il y a un hublot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Herbert voit à travers un hublot les bateaux qui croisent le long des côtes de Floride. C'est-à-dire que c'est le contre-champ de ce que lui a vécu 70 ans auparavant.
C'est une histoire vraiment extraordinaire. On peut lui souhaiter longue vie. Il a 89 ans encore.
Oui.
Alors, le navire pour l'instant fait des ronds dans l'eau. Personne n'en veut parce que... C'est vrai que le gouvernement cubain s'est montré incroyablement fermé, après avoir donné quand même des garanties par l'intermédiaire de son consulat en Allemagne. Mais maintenant, ce sont tous les gouvernements américains, l'un après l'autre, le Canada, les États-Unis, les différents pays d'Amérique du Sud, qui vont également faire preuve d'une grande fermeté.
Oui, puisqu'on est en Floride, au large de la Floride, on va demander d'abord à l'Amérique de Roosevelt. Roosevelt est un grand président. On va lui demander s'il veut bien accueillir quelques 900 et quelques passagers. La réponse est non. Après, on demande au Canada. Le Canada a une réponse formidable à travers la voix de son ministre de l'immigration. On lui demande combien vous allez prendre de juifs émigrés. Et le ministre répond « None and it's too many ». Aucun et c'est déjà beaucoup. Ensuite, on demande à tous les gouvernements d'Amérique centrale, c'est non. Tous les gouvernements d'Amérique latine, c'est non. Pour une seule raison, c'est que tous, si Washington avait levé le petit doigt, avait dit d'accord, tout le monde les aurait accueillis. Sauf que Washington ne fait rien.
Alors c'est quand même extravagant, parce que l'Amérique de l'époque, c'est l'Amérique du président Roosevelt, qu'on imagine toujours tellement ouverte en général, et particulièrement ouverte aux Juifs, a priori.
Pas vraiment.
Mais
pas vraiment.
La preuve ?
Il y a un très grand écrivain américain, Philip Roth, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Amérique du complot », le complot de l'Amérique, mais qui imagine que Charles Lindbergh, qui est antisémite notoire, qui a reçu la Grande Croix de la part de Hitler, Henry Ford également, très célèbre parmi les donateurs.
Oui, si on doit faire la liste des personnalités américaines antisémites à l'époque, il y en a un certain nombre.
Il y en a un certain nombre. Et donc, on va se retrouver effectivement avec un pays qui n'en veut pas. Et surtout, Roosevelt est sur le point de être réélu pour la troisième fois. Ce ne serait pas possible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que deux mandats de possibles pour un président américain. À l'époque, c'était possible.
Lui, il va même être élu quatre fois, en fait.
Absolument. Et il ne veut pas qu'une poignée de réfugiés juifs l'empêche d'être réélu. Donc, ce sera non.
Donc, c'est pour des raisons, on va dire, d'opinion publique.
Oui, absolument.
Et alors, les autres gouvernements américains, et notamment sud-américains, se réfugient derrière la décision de Washington pour en faire autant, c'est ça ?
C'est la doctrine, ce qu'on appelait la doctrine Monroe, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'arrière-cour de backyard, l'arrière-cour des États-Unis. C'est l'oncle Sam qui dicte sa loi. Si l'oncle Sam dit « vous pouvez les accueillir », Il les accueille. La réponse n'est jamais venue.
Elles ont dû être longues, hein, ces journées jusqu'au 6 juin. On attendait, puis les réponses arrivent l'une après l'autre et ce sont toujours des réponses négatives. Et finalement, donc, le 6 juin, le paquebot reprend la traversée de l'Atlantique, mais cette fois dans l'autre sens. Ça doit être terrible. Vous parliez de brigade anti-suicide, là, ça devient sans doute nécessaire.
Il y a même une anecdote qui est tout à fait révélatrice du capitaine en particulier, Schroeder. Il va essayer à un moment donné d'entrer en force dans un petit port de Floride en se disant « j'y vais et je vois mal les Américains, les gardes-côtes, nous tirer dessus ». Le problème, c'est qu'au moment où il pénètre dans ce petit port, il y a immédiatement une flottille qui se met en marche avec des hélicoptères qui sortent d'on ne sait où et qui empêchent le bateau d'avancer. Et très longtemps, dans l'esprit de des survivants en tout cas, ils auront cette question en tête. Si on avait continué face au blocus, si on avait forcé ce blocus, est-ce que les Américains nous auraient véritablement tirés ? On pense que non. Et aujourd'hui en tout cas à l'époque, plus de 900 personnes auraient été sauvées.
Il avait des regrets, vous pensez, donc, le capitaine Schroeder?
Oui, on le sent très bien dans son journal de bord, donc, que je cite beaucoup dans le livre. Il a une mission à accomplir. Il parle de ses passagers. Il se porte garant de leur sécurité. Et il va tout faire pour les sauver. Il va le faire une fois en Floride. Il va essayer d'imaginer un deuxième scénario un peu plus tard, près de Southampton, de faire échouer le bateau. Il ne veut pas ramener le bateau à Hambourg. Il sait ce qui attend les réfugiés, c'est les camps de concentration.
Et voilà. Le navire arrive à Anvers le 17 juin. Les passagers seront finalement accueillis par 4 pays européens, la France, les Pays-Bas, la Belgique et l'Angleterre. L'histoire aurait pu s'achever à la gare de Waterloo, écrivez-vous, décorée de guirlandes et drapeaux pour l'arrivée prochaine du couple royal, avec les premiers pas sur le sol anglais des passagers du Saint-Louis. C'eût été un cadre grandiose pour un tableau final doublé d'un clin d'œil de l'histoire. Le roi et les réfugiés revenaient de la même région du monde, mais tandis que le premier avait été reçu avec faste par le président Roosevelt, l'Amérique avait claqué la porte au nez des seconds. Seulement voilà, nous sommes le mercredi 21 juin 1939, le jour le plus long de l'année, et l'avènement de l'été annonce surtout la fin de la paix en Europe.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, cet après-midi, vous nous racontez le voyage du Saint-Louis, ce paquebot allemand à bord duquel plusieurs centaines de juifs allemands ont quitté l'Allemagne nazie. Vous recevez Bernard Benjamin, journaliste, producteur, animateur de télévision et auteur de l'Odyssée de la peur qui sort aujourd'hui et qui est paru chez First.
Et oui, et alors tous n'étaient pas allemands, hein. Il y avait beaucoup d'Allemands, une grande majorité, mais il y avait des Autrichiens, des gens d'Europe de l'Est, des Polonais. Nous allons voir ce qu'ils sont devenus. Et avec vous, Bernard Benyanim, nous allons revenir sur le destin de quelques-uns. Je pense à Eva, à Sonia, à Hans. On y vient dans un instant. Mais avant cela, il faut peut-être que nous expliquions la situation. Quelle est l'attitude des différents gouvernements à l'égard de ces Juifs dont on sait qu'ils sont extrêmement menacés par Hitler et par le nouveau régime allemand?
Alors on va répéter ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui à propos de tous les réfugiés que l'on voit en Méditerranée et ailleurs. Il y a eu en juillet 38 une conférence sur les réfugiés qui s'est tenue à Évian.
Et voilà.
Sous l'impulsion des États-Unis, tous les États occidentaux se sont rassemblés et donc on leur a demandé d'essayer de sauver un certain nombre, ce qu'ils pouvaient, de sauver des Juifs allemands. Au bout de 10 jours de réunion, la réponse a été très claire, aucun réfugié juif n'a trouvé refuge dans aucun pays occidental. À partir de là, chacun essaye de faire ce qu'il peut et chacun essaye. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous l'avez rappelé tout à l'heure, le consul de Hambourg met en vente ses billets pour...
Les gens se jettent dessus.
Oui, en l'espace de 48 heures, il n'y a plus rien.
Bah, bien sûr. Alors, quand le gouvernement américain, pour des raisons purement électorales, enfin largement électorales, n'en est pas voulu, on le comprend. Enfin, on le comprend, on voit pourquoi. Les gouvernements d'Amérique ne veulent pas non plus faire un seul geste. Et Dieu sait pourtant qu'il y avait notamment en Amérique du Sud des pays qui auraient pu profiter, hein, tout simplement, de cette immigration de juifs qui venaient d'Allemagne et dont certains, dont beaucoup même, étaient des gens de haut niveau. Il y avait des professeurs, des avocats, des médecins, etc. Hein.
Oui, on a à peu près, sans vouloir faire des comparatifs, en gros la population que l'on a aujourd'hui avec les Syriens. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, comme les juifs à l'époque, sont menacés de mort dans leur pays, donc quittent, sont des professeurs, des médecins, des avocats. C'est une middle class, une classe moyenne plutôt élevée et qui se retrouve du jour au lendemain sans rien, sans argent, sur les routes et en l'occurrence sur un bateau.
Alors, puisque vous faites pour la deuxième fois cette allusion à notre situation actuelle avec les migrants, hein, comme on les appelle, et qui viennent pour beaucoup d'entre eux de Syrie, est-ce qu'on peut donner un rapport de proportion ? Quelle était la population totale des Juifs qui aurait dû ou qui aurait voulu quitter l'Allemagne à cette époque ?
Je crois, je n'ai plus les souvenirs, j'ai plus tout à fait le souvenir, mais je crois que ça tourne autour de 200 à 300 000.
Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est quand même infiniment moins que la population du Moyen-Orient
absolument,
actuel. Hein. Ça aurait été beaucoup plus facile, disons, à assimiler. Et c'est une population qui n'est pas, entre guillemets, infiltrée, comme peut l'être parfois la population qui arrive du Moyen-Orient.
Ce qu'il y a de tout à fait remarquable avec l'histoire du Saint-Louis, c'est que l'on passe du statut de passager. Ils ont acheté un billet de pour aller en bateau. Ils ont acheté un permis de débarquer. Ce sont des passagers. Or, à partir du moment où Cuba leur ferme les portes du pays, ces passagers deviennent des migrants.
Comment expliquer que les autorités allemandes aient laissé ces centaines de personnes monter à bord du...
Parce qu'à l'époque, on n'en est pas encore au stade de la solution finale. Mmh. Pour les Allemands, il s'agit avant tout de se débarrasser de tous les Juifs. Et tous les moyens sont bons.
Y compris l'expatriation.
Y compris l'expatriation. Se débarrasser, c'était le maître mot à l'époque. Il va falloir attendre l'éclatement de la guerre, 2-3 ans, 41-42, pour que germe dans leur esprit la solution finale.
Combien de personnes vont donc se retrouver dans les différents États, on a dit en Belgique, aux Pays-Bas, en France
et
en Grande-Bretagne ?
Entre 200 et 250 selon les pays. Mm-hmm. Ce qui est de tout à fait remarquable, mais à ce moment-là, en juin 1939, personne ne sait que la guerre va éclater et comment elle va évoluer. On peut dire que tous les passagers du Saint-Louis qui choisissent d'aller en Angleterre, eux, sont sauvés. Parce que le Channel, la Manche, sera un obstacle infranchissable pour les troupes de Hitler.
Ça, c'est ce que nous apprend l'histoire.
Oui.
À l'époque, ils ne le savaient
pas.
Ils ne savent pas.
Alors que ceux qui vont en France, qui choisissent la France, la Belgique ou les Pays-Bas, d'abord, ils vont être arrêtés.
Notamment les Pays-Bas.
Ils vont être arrêtés d'abord parce qu'allemands, et donc en guerre contre le pays. Et ensuite, en tant que juifs, lorsque les Allemands vont envahir les différents pays cités.
Et donc, rappelons la proportion qui a péri dans les camps de la mort, finalement.
Il y a entre 300 et 350 personnes, c'est-à-dire la moitié de ceux qui avaient trouvé refuge dans les pays européens, dans l'Angleterre.
Oui, c'est donc les ramener là, c'était les condamner, il faut le dire. Alors, vous avez rencontré, vous, un certain nombre de ceux qui ont échappé à la mort. Je pense à Eva, notamment, qui était toute petite, hein, qui était un bébé à l'époque.
Un bébé. Alors, ce qu'il y a de tout à fait remarquable, c'est qu'étant un bébé, elle n'a aucun souvenir. En revanche, toute sa vie a été bercée, rythmée par l'histoire du Saint-Louis avec ses parents. On ne parle que de ça à la maison. Elle a été...
C'est fort, hein, ça, quand même. Hein.
Ah oui. Elle est au courant de tout. Elle connaît tout par cœur, au point qu'aujourd'hui, elle passe le reste de sa vie à aller dans les écoles pour faire des conférences et assurer la transmission du savoir en disant « voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, nous étions un peuple, les Juifs, les Allemands, nous étions un peuple issu du siècle des Lumières, avec tous les intellectuels que l'on connaît, avec les philosophes, les musiciens, les écrivains. Eh bien, c'est ce peuple-là qui a donné cette espèce de monstre hybride qu'on a appelé le nazi. C'est possible à tout moment. »
Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de cas, on ne peut pas tous les évoquer. Parlez-nous de la mamie du Bronx.
Alors, c'est Sonia Geismar. Elle est absolument formidable. Lorsque je suis allé la voir... Donc j'ai pris le métro à New York pour monter au-delà de la 250e rue. Elle m'attendait en voiture, elle a plus de 80 ans. Elle m'attendait dans une super voiture américaine. elle m'a conduit chez elle. Alors, comme elle habite le Bronx a été un des quartiers les plus violents de New York dans les années 70, les années 80. Je crois qu'elle garde de ces années-là l'habitude de fermer tous ses volets. Elle a une petite maison dans le Bronx, mais tous les volets sont fermés. Elle m'a dit, je crois effectivement que depuis, je ne les ai plus jamais ouverts. Elle vit avec son mari qui est atteint d'Alzheimer, malheureusement, qui a fait un AVC également. Elle continue à se battre, elle aussi. Elle aussi va dans les lycées, va dans les collèges, va essayer de raconter son histoire pour que ça serve d'exemple pour les générations futures.
Certains ont fait une grande carrière. C'est le cas du docteur Hans Fischer, qui lui est un dermatologue.
Oui, très célèbre. Lui, il a une histoire absolument formidable. Il est sur le bateau qui l'amène en France, après l'Odyssée du Saint-Louis. Il va rester en France un certain nombre de mois. Simplement, sur ce bateau, il ne peut pas aller dans la cale parce que il n'y a pas de place. Et donc, il va rester dehors, dans le froid et sans lit, sans chaise, sans rien. Il va essayer de passer la nuit comme il peut. Et le matin, quand il se réveille, parce qu'il a réussi quand même à dormir, il s'aperçoit qu'il est un peu humide et il a une espèce de chaleur au niveau de l'entrejambe. Il a uriné pendant la nuit. Cette histoire va lui rester toute sa vie. Et aujourd'hui, il me dit encore, dès qu'il fait froid, c'est-à-dire quand, par exemple à New York, pendant l'été, on met l'air conditionné, je ne supporte pas l'air conditionné. Immédiatement, j'ai des envies qui me reprennent. Je suis obligé de me couvrir. Et lorsqu'on dit qu'on s'en est bien sorti, effectivement, je ne suis pas mort, mais je traîne, j'ai traîné toute ma vie des troubles liés à cette histoire du Saint-Louis.
Comment avez-vous fait pour retrouver ces passagers du Saint-Louis, ces derniers témoins?
Ça a été, j'allais dire, assez facile. À travers le musée de l'Holocauste à Washington, j'ai eu un interlocuteur. Et cet interlocuteur m'a dit, écoutez, moi j'en connais beaucoup, je vais simplement leur demander, ce sont surtout des femmes qui restent, évidemment, je vais leur demander si elles veulent vous recevoir. Et les unes après les autres se sont téléphonées entre elles, et à un moment donné, il y avait ce fameux French journalist, ce journaliste français qui devait interviewer, et elles m'ont toutes dit oui.
On n'avait pas, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'avais pas entendu parler de cette histoire. C'est une histoire assez méconnue. Vous l'avez découverte comment?
Par hasard.
Et on comme toujours,
finalement. Comme toujours, par hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Un ami m'avait effectivement offert un livre qui s'appelle Hérétique, qui est de Leonardo Padura, qui est un auteur cubain, très talentueux. Et à la page 20 de ce livre, apparaît la silhouette du bateau, le Saint-Louis, en rade de la Havane, avec une sombre histoire de tableau de Rembrandt, etc. Et j'apprends, par ce livre qui est un roman, que effectivement ce bateau est à Cuba et que les passagers ne pourront jamais descendre, fouler le sol cubain. Je vais immédiatement sur Internet, je commence à faire mes recherches et je suis tombé sur cette histoire.
Et voilà. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le Saint-Louis n'a pas été le seul navire de réfugiés juifs fuyant le régime nazi et fuyant l'Europe de l'Est. Il y en a eu un certain nombre de ces vaisseaux fantômes.
On appelait les vaisseaux fantômes. Ouais. Alors simplement, à la différence du Saint-Louis, qui lui avait une destination.
Qui était Cuba. Avec des documents qui avaient été achetés.
Absolument.
Et à prix fort.
Enfin, les autres, effectivement, c'était des bateaux qui erraient de port en port en Méditerranée pour essayer de trouver refuge. La plupart n'ont pas pu, la plupart ont été obligés de revenir en Allemagne.
J'ai appelé cette émission un exodus avant l'heure. Est-ce que vous pensez que le manque total d'empathie et d'accueil d'un certain nombre de grandes démocraties, à commencer par la démocratie américaine, à cette époque, a joué un rôle dans la décision de créer cet État d'Israël après la guerre?
Sans doute par mauvaise conscience, oui, certainement. Je pense effectivement un certain nombre de ces États-là se sentaient coupables d'avoir, sinon laisser du moins rien fait pour empêcher l'Holocauste. Et donc effectivement une manière pour eux de se rattraper a été la création de l'État d'Israël.
Il faut raconter évidemment ce genre d'histoire. Vous le faites à partir des témoignages, donc c'est un hommage qu'il faut rendre là à l'histoire orale d'une certaine manière. Et vous le faites aussi avec du suspense. On lit ça comme un véritable, alors vous savez, c'est une expression qu'on a l'habitude d'employer, mais là c'est ça, on lit ça comme un véritable roman. C'est peut-être aussi la mission de l'historien d'aujourd'hui, c'est d'être capable de faire partager les émotions d'autrefois.
Écoutez, on m'a toujours dit que le journaliste était l'historien d'aujourd'hui, effectivement. J'ai une faiblesse, j'adore raconter des histoires. j'adore raconter et qu'on m'écoute et que cette histoire serve à quelque chose. Lorsque j'étais avec Paul Nahon, envoyé spécial, on se disait lorsqu'on faisait des reportages, si ce que l'on a voulu démontrer touche une personne, on a gagné. Je pense que si effectivement une personne est sensible à ce qui s'est passé en 1939, j'aurais gagné.
Merci beaucoup Bernard Benjamin d'être venu nous faire partager vos émotions à propos de cette Odyssée de la peur. C'est le titre que vous avez donné à cette nouvelle enquête qui est un peu dans l'esprit, dans le style, je dirais, de votre grand livre Le Code d'Esther, et qui nous rappelle que même en 1939, alors qu'on savait exactement ce qui attendait les Juifs en Allemagne, on savait très bien à quel point le régime nazi leur était les persécutait, eh bien ils ont eu du mal à se faire accepter. Tout de même, disons que ils ont pu se réfugier. Alors bon, la guerre ensuite a fait que beaucoup ont péri, mais ils ont pu se réfugier en France, en Angleterre, en Belgique et aux Pays-Bas. Ça méritait quand même d'être redit, me semble-t-il. Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous dévoile les origines de l'expression « le pot aux roses ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.